Se faire tout à tous, voilà une phrase que l'apôtre Paul nous lègue comme un trésor, phrase célèbre. Mais que signifie-t-elle exactement? Que nous enseigne-t-elle sur la bonne façon de témoigner de l'Évangile, sur la juste manière d'être en relation avec les autres? N'est-il pas un peu hypocrite de prétendre pouvoir rejoindre tout le monde? De passer des juifs aux grecs, des athées aux croyants, des classes sociales cultivées à la culture des banlieues? Ou alors, ce tout à tous serait-il une technique de pêche, une stratégie d'évangélisation pour attraper le plus grand nombre à l'hameçon de l'Évangile? Je vais le dire d'emblée, je ne crois pas aux stratégies d'évangélisation, ni aux programmes pour devenir des chrétiens plus performants, plus spirituels. Je ne crois qu'en l'Évangile de Jésus-Christ, qui est bien suffisant pour répondre à nos questions, et je ne peux soupçonner l'apôtre Paul de vouloir ici faire de nous des représentants de notre commerce évangélique. Je crois au contraire que, par cette petite phrase très forte de signification, qui est même devenue un adage, un dicton, Paul témoigne d'un parcours de vie à la fois ambitieux et généreux, qui peut devenir un chemin à suivre pour chacun de nous, je le crois. Il y a en réalité dans cette petite phrase de Paul une véritable révolution copernicienne, une rupture radicale avec tous les modèles, tous les rapports de force habituels, ceux précisément dont usent les religions pour faire des adeptes. Ben, un apôtre, spontanément, on se dit que un envoyé, un représentant d'un produit, quel qu'il soit, un produit religieux, un produit politique, un produit commercial, ben, ça doit appeler les gens à venir, les convaincre de venir, de rejoindre. Rejoignez-nous, car nous avons ici plus de raisons, nous avons plus raison que les autres. Nous avons un produit plus spirituel, meilleur, de meilleure qualité. Notre lecture de la Bible est plus fidèle ici qu'à côté. Et la pure vérité, ben, nous la recevons directement du Saint-Esprit. Venez nous rejoindre. N'allez pas chez le concurrent parce qu'il est dans l'erreur. Il peut être même manipulateur et dangereux. Un apôtre, ça devrait dire « Ne vous posez pas de questions, suivez-moi, croyez ce que je vous dis, faites ce que je vous prescris, et tout ira bien. » Mais l'apôtre Paul n'est pas un apôtre comme les autres. Son approche de l'autre, quel qu'il soit, est réellement révolutionnaire. Il nous explique qu'un apôtre du Christ, un vrai, n'appelle pas les gens à venir s'enfermer dans le périmètre douillet et sécurisé d'une communauté. Il enseigne exactement l'inverse. Ce ne sont pas les autres qui doivent graviter autour de notre nombril ecclésial, de notre vérité, c'est nous qui devons graviter autour des autres. Elle est là la révolution copernicienne de l'Évangile. L'apôtre est un envoyé, il va, il sort à la rencontre de tous. C'est lui qui s'adapte à la personne qu'il rencontre, et non l'inverse. Son but n'est même pas de les ramener au bercail, mais de les libérer des forces de mort qui agissent en eux. Je me fais tout à tous pour en sauver quelques-uns. Paul est non seulement capable de parler le langage de l'autre, mais il est surtout capable d'aimer ce langage, d'en pénétrer la culture, la richesse, la faiblesse, la noblesse. Paul aime rencontrer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il aimerait qu'il soit. Il ne conçoit pas sa présence au monde, son engagement chrétien, comme un piège pour les autres. Ce serait un contre-évangile pour Paul. Gagner, sauver l'autre, ce n'est pas lui faire signer une adhésion, c'est l'accompagner sur son chemin de vie et là, l'aider à se libérer de ce qui le rend esclave. Pas tout à fait la même chose. Hein. John Stott, un pasteur évangélique et théologien du XXe siècle, qui fait vraiment autorité aujourd'hui dans tout le milieu évangélique mondial, hein, disait avec beaucoup d'inspiration et de finesse que tout engagement social, tout soutien spirituel, psychologique ou amical, auprès d'un non-croyant, qui aurait une intention prosélyte, ce soutien qui serait un appât sur un hameçon, un piège en somme, pour Stott, ce serait une approche de l'autre incompatible avec la gratuité de la bonne nouvelle. Quand on aime au nom du Christ, il faut apprendre à aimer pour rien, sans idée derrière la tête. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Certaines personnes, allez, ont un caractère rigide. C'est toujours l'autre, hein, c'est jamais soi-même. Et un rapport à la loi très strict, cela les construit. Que voulez-vous ? Ils ne peuvent pas être vraiment autrement qu'ils sont. Paul nous dit qu'il est possible d'apprendre à parler leur langage, sans nécessairement partager leur vision en noir et blanc, en vrai-faux, à les rejoindre là où ils se trouvent sans nécessairement être d'accord avec eux. D'autres personnes sont un peu artistes, un peu bohèmes, jamais à l'heure, mais tellement créatifs, avec un sens de la morale assez flou. Les sans-loi, comme les appelle Paul ici. Paul nous dit que nous pouvons cheminer avec ces personnes-là sans pour autant adopter leur mode de vie. D'autres encore ont un tempérament mystique. Nous prierons avec elles. D'autres aiment couper les cheveux en quatre. Nous ferons de la théologie avec elles. Pour d'autres, l'engagement social, c'est la seule vérité. Tout le reste, c'est du baratin. Eh bien, nous nous retrousserons les manches pour être à leur côté, artisans de paix et de justice sociale. D'autres encore, c'est peut-être le plus difficile, sont aigris, fatigués, souffrants, tristes, dépressifs. Nous serons à leur écoute, nous aurons compassion. Nous nous ferons tout à tous, rejoignant l'autre là où il est, comme le Christ nous a rejoints au fond de notre abîme personnel. Je trouve très important que l'on puisse, par exemple, proposer un numéro vert aux personnes prisonnières de leurs pulsions pédophiles, plutôt que d'aborder le problème uniquement sous l'angle de la répression. C'est finalement Dieu que l'on suit et non l'homme. Hier soir et après-midi, je parlais aux jeunes. En visioconférence, le thème, c'était la séparation du monde. On est en plein dedans. Hein. Et à ce moment-là, j'évoquais un pasteur de ma jeunesse qui nous avait enseigné, avec beaucoup d'autorité, un principe moral simple pour répondre à cette question simple. Et la question, c'est, nous lui demandions, si nous, jeunes chrétiens, nous pouvions aller en boîte de nuit, ou dans les bars, ou écouter des concerts rock. Et le groupe téléphone à l'époque. Et sa réponse nous avait impressionnés. Nous avait dit, ne va jamais dans des endroits où tu ne peux pas emmener le Christ avec toi. Alors nous, on était impressionnés. Sous-entendu, vous l'entendez, hein, il n'est pas bon de fréquenter des lieux de perdition. Des années plus tard, j'ai interrogé ce principe pour finalement l'abandonner. Non seulement parce qu'il n'avait produit en moi que de la culpabilité, mais surtout parce que ma lecture de l'Évangile me démontrait exactement le contraire. Jésus n'a pas cessé de fréquenter les lieux de perdition, comme la maison de Lévi, des gens infréquentables, comme la femme adultère, ou des gens possédés, malades, des impurs, de toutes sortes. Et chaque époque désigne un, ces malades, ces impurs, ces infréquentables. En réalité, Christ, c'est le nouveau principe auquel j'ai adhéré. Christ me précède en tout lieu. Il n'existe plus de lieu de perdition, de camp retranché du mal. Tu peux aller partout parce que Christ s'y trouve déjà. Tout et tous peuvent devenir dans la présence du Christ, c'est-à-dire en ma présence de témoin du Christ, d'apôtre, un lieu de salut, un cœur qui s'ouvre à Christ. N'ayons plus peur. Se faire tout à tous pour libérer, plutôt que de chercher à modeler les gens à notre image, voilà la révolution copernicienne portée par l'Évangile et par voie de conséquence, la posture que l'Église chrétienne doit adopter. Il ne faut pas oublier la signification du mot Évangile. Ça veut dire bonne nouvelle et non formatage, réduction des libertés, suspicion, mise en garde, enfermement. L'Évangile, c'est avant tout une vie intense, celle du Christ, qui à la fois nous précède et nous devance. Il est devant et il est derrière. Vivre l'Évangile, c'est se décentrer de soi-même pour aller vers l'autre en tenant la main du Seigneur. Le faire avec plaisir, gratuitement, guidé par le seul intérêt pour lui, dans l'espérance qu'il ou elle sera gagné et sauvé. Vous avez vu que Paul dit quelques-uns, hein, ça c'est le principe de lucidité, il faut peut-être arrêter de vouloir sauver le monde entier et de nous occuper juste de quelques-uns, ce sera déjà pas mal. Vivre l'Évangile, voilà. C'est revenir un peu sur tout cela. Ces termes de gagner et sauver me travaillent beaucoup. Gagner une personne, ce n'est pas un langage qui est facile. Hein. Je crois en tout cas pas que c'est la matraquer de versets bibliques jusqu'à ce qu'elle abdique et qu'elle prononce un oui d'épuisement et d'adhésion. Mais pour combien de temps ? C'est gagner cette personne à une façon d'être, belle et vraie, qu'elle évangile lui-même. C'est accompagner cette personne sur son chemin de délivrance, de conversion et de salut. c'est faire en sorte qu'elle se sente l'envie, le désir de marcher, de changer, d'avancer, et surtout qu'elle se mette en route librement, jamais sous la contrainte, avec Christ, dans le respect de sa personnalité, qu'elle soit rigide, artiste, mystique ou tout ce que vous voulez, de sa sensibilité. Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Et si le mot évangile nous prescrit l'essentiel de notre mission, celle de semer la joie, la paix, l'amour, la liberté, la fraternité, le mot Église, lui, nous donne une feuille de route précise aussi. Nous devons aller à la rencontre de l'autre là où il se trouve. Ecclésia, en grec, ekklesia, ou en hébreu d'ailleurs, ka'al, traduit par assemblée ou église, signifie littéralement être appelé. Et donc forcément, or, quand on est appelé, c'est aller de là où on se trouve vers l'endroit où on nous appelle. Et non appelé au-dedans. Il faut sortir de chez soi pour aller là où Dieu nous envoie. L'Église est donc la communauté des sortants, des appelés envoyés vers tout ce que Dieu aime. Et ça fait du monde. Si vous êtes venu ici puiser des forces, des idées, de l'inspiration pour vivre votre vie de témoin du Christ au dehors, alors vous vous faites, nous faisons Église ce matin. Non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont aussi en vidéo. Si au contraire vous venez ici pour vous sentir en sécurité, dans l'entre-soi de ceux qui connaissent la pure vérité, qui forment une famille où on se sent bien, et ben vous êtes une secte. Une Église digne de ce nom fait des apôtres, des envoyés. Une secte fabrique des fidèles et des prosélytes. Dans ce « je me suis fait tout à tous » de l'apôtre Paul, j'ai ressenti, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai ressenti ce bonheur intense qu'il y a d'être témoin du Christ partout et auprès de tous. Se faire tout à tous, c'est un projet ambitieux et généreux à relever ensemble, sœurs et frères, celui d'offrir tout l'Évangile à tout le monde, toute personne, en tout lieu, sans discrimination aucune. Chacun a le droit de se voir offrir tout l'Évangile et pas seulement un petit bout d'Évangile simplifié, limité à la petite morale qui nous convient bien. Non ! Toute personne est digne d'être appelée et envoyée, d'être à la fois disciple et apôtre. C'est en faisant route avec tous que nous vivrons cette expérience qui est à la fois, j'en parlais avec une jeune tout à l'heure, à la fois inconfortable, déroutante, mais merveilleuse, qui va nous faire naître à une vocation apostolique, d'envoyer, une vocation généreuse et ambitieuse au nom du Christ. Et tout cela, la plupart du temps, sans même nous en rendre compte, vivons l'Évangile. Dans ce décentrement de soi, c'est là que nous vivrons, que nous ferons l'expérience de l'accueil de tous, que nous ferons tout à tous. Amen.